Comment Paul commence par affirmer, démontrer par l'Écriture et attester par la suite de témoins oculaires que la résurrection du Seigneur Jésus a eu ici-bas, cette grande vérité, ou plutôt ce grand fait de la résurrection de Christ. Élément capital, fondamental de l'Évangile qu'il avait annoncé aux Corinthiens et qu'il leur rappelle. Et il conclut en disant, soit donc moi, les autres apôtres, soit moi, soit eux, les autres apôtres, nous prêchons ainsi. C'est-à-dire que Christ est mort, a été enseveli et a été ressuscité le troisième jour. Et vous avez cru ainsi. Ce grand fait bien établi, il dit, comment se fait-il qu'il y en ait parmi vous qui nient la résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, et l'apôtre commence là une démonstration, un raisonnement très logique, mais inspiré, en disant, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ est mort. Christ n'est pas ressuscité. Parce que Christ est réellement mort. C'est le Fils de Dieu, mais c'est un homme qui est mort. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y en a pas pour lui. Et il est encore mort. Et vous-même, vous êtes encore dans vos péchés. Et notre prédication est vaine, plus que cela. Nous avons été de faux témoins, et nous les apôtres. Et si cette fausse doctrine correspondait à la réalité, alors quelle triste condition que celle de gens qui auraient cru à un mensonge. Ils auraient fait Dieu menteur, car les Écritures sont les Écritures de Dieu, mais quant à eux-mêmes, ils n'auraient aucun espoir pour l'avenir, et ils n'auraient pour la vie présente que la plus grande misère morale. Il n'aurait aucune des satisfactions que les hommes pensent trouver dans ce monde, et il n'aurait rien au-delà. Et alors, il est remarquable que ce soit à ce moment que l'apôtre interrompt sa démonstration, cette discussion la doctrine de la résurrection des morts. Il la reprend au verset 29, comme nous l'avons vu, et le paragraphe qui va du verset 20 au verset 28 est donc une parenthèse. Et cette parenthèse est magnifique, et elle est remarquablement à sa place, nous saurions nous en étonner, parce que elle met en contraste avec ce qui serait la part misérable de ceux qui professent le christianisme s'il n'y avait pas de résurrection des morts. Il met en contraste avec cela les glorieuses perspectives, les certitudes plus exactement qui sont celles de la foi, qui, dont la résurrection de Christ voit le prélude, le premier acte de l'accomplissement de pensées glorieuses de Dieu allant jusqu'à l'état éternel où la mort ne sera plus. Et ces versets qui ont été et qui continuent à être en encouragement et en consolation à tant et tant de chrétiens constituent un enseignement proprement unique dans la parole, car là se concentre un ensemble de vérités, de faits, présents, actuels et futurs, qui nous ouvrent sur toute l'histoire du monde, les vues, les perspectives, mais plus que cela, des vues précises qui, à la lumière desquelles, on peut dire, toute l'histoire de l'humanité s'éclaire et tout ce que la parole, d'un bout à l'autre, vient placer devant nous. Et tout cela s'ordonne par rapport à ce grand fait qui a eu lieu et qui demeure, c'est que Christ a été, et demeure par conséquent, il a été, il est ressuscité. Mais maintenant, Christ a été ressuscité. Et ressuscité d'entre les morts. Le seul qui soit ressuscité dans un triomphe total sur la mort. Il y avait eu des résurrections, des témoignages de la puissance de Dieu pour rendre des morts, mais les rendre à la vie terrestre, à la même vie qu'ils avaient précédemment. Et qu'il s'agisse de Lazare et de ceux de l'Ancien Testament, ce n'est qu'une chose passagère, comme un accident remarquable, miraculeux, mais dans une vie d'homme ici-bas. Tandis qu'ici, avec la résurrection de Christ, c'est le triomphe sur la mort de telle manière que c'est bien le même corps, mais un corps de résurrection, avec la vie qui est une vie pour l'éternité. Et c'est cette même puissance de résurrection. Et c'est cette même transformation. Et c'est cette même vie éternelle que ceux qui appartiennent à Christ, qui croient en lui, vont connaître bientôt. Il est les prémices de ceux qui, même passant par la mort, ceux qui sont endormis, connaîtront. Ressusciteront. Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui sont endormis.
C'est en effet bien remarquable que nous ayons au moins trois parenthèses de cette valeur divine dans le Nouveau Testament. Celle-ci, comme on vient de le dire, place devant nous des réalités qui vont jusqu'au jour éternel. Et elles ont comme point de départ ce qui est ici affirmé comme une chose possédée par la foi. Maintenant, ce que nous possédons, ce que nous tenons en main, une expression caractéristique de l'Épître aux Romains, ce qui est le privilège de la foi, ce dont nous sommes certains. Maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Et il vient à notre esprit une autre parenthèse d'une égale valeur. Évidemment, nous sommes sur un terrain de perfection divine. C'est la fin de 1 Thessaloniciens 4, où est placé devant nous ce qui est pour nos cœurs une certitude. Christ revient et vient nous chercher pour que nous soyons toujours avec le Seigneur. Et une autre parenthèse, non moins riche, se terminant aussi par une note de louange éternelle, c'est le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. Tout entier, nous avons là une parenthèse, et quelle merveilleuse parenthèse! Les desseins de Dieu à l'égard de la gloire de son Fils, les desseins, le mystère caché dès les siècles en Dieu, le mystère de l'Église se trouve là révélé. Et le point final de cette parenthèse, quand va s'ouvrir au chapitre 4 le commencement de magnifiques exhortations, le point final, c'est une note de louange à lui sur la gloire au siècle des siècles. Tenons ferme ce qui est proposé en notre foi, ce à quoi Dieu nous donne de croire comme étant sa parole sûre et éternelle.
On a parlé tout à l'heure de l'histoire du monde. Les hommes ne manquent pas, qui se sont appliqués, qui continuent à le faire, à écrire cette histoire du monde. Et c'est l'histoire de l'homme, comme l'homme peut l'avoir. Elle ne conduit à rien. Elle ne débouche sur rien. Elle ne peut pas sortir l'homme de la sphère où il vit. L'homme ne peut pas sortir lui-même de la sphère où il est emprisonné. Il ne peut pas aller au-dessus de l'horizon qui tient à son état de créature et de créature pécheresse. Mais Dieu a le récit, c'est l'histoire du monde. Et un récit sûr, de la plus haute valeur. Car Dieu n'amuse pas sa créature. S'occupe d'elle pour la bénir. Et en particulier, cette question de la mort de Christ. Évidemment, on ne peut pas trouver cela chez le meilleur historien qui soit, en tous les temps. Ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qui les remplissent tous de terreur, avoués ou non. Béni soit le Seigneur de ce que nous avons sa parole qui touche, traite, règle tous les sujets essentiels. Ici, celui de la mort. La gloire de celui qui a vaincu la mort, éclipse, efface toutes les gloires que les hommes cherchent à acquérir en s'occupant de l'histoire du monde, simplement sur ce terrain-là. Tout cela est réduit à néant. Sur ce terrain, sans mépriser personne, c'est sur ce terrain que l'écriture nous place. Et il n'y avait rien sur la terre qui fût pour honorer ce grand vainqueur, qui fût à la hauteur de sa gloire. Il n'y avait rien, rien au monde. Si, ce que Dieu lui avait préparé. Non pas des édifices humains, mais le cœur des rachetés. L'Église, voilà l'édifice que le Saint-Esprit a préparé pour contenir, pour être le témoignage, le vase de la gloire de celui qui a honoré le Père et de celui qui a permis au Père de recevoir dans son ciel des hommes perdus tels que nous. Nous sommes heureux de célébrer le Seigneur et sa gloire, sa victoire. Un inconverti ne peut pas le faire, il n'a pas le droit de le faire moralement. Cela ne veut pas dire que Dieu ne suit pas l'histoire du monde. Il la suit dans tous ses détails. Et il n'y a pas une pensée dans l'histoire du monde, une pensée d'homme, qui échappera à son regard au jour du jugement final. C'est très solennel. Et cela nous devrait nous rendre conscients de notre responsabilité. Nous qui sommes hors de la mort, c'est vrai. Hors de la misère, c'est vrai. Nous ne pouvons trouver aucune justification pour n'importe lequel des péchés que nous commettons. Dieu ne recevra aucune excuse. Il nous dit, je t'ai donné ce qu'il fallait pour ne pas pécher. Je l'ai mis entre tes mains. Quelle responsabilité l'un à l'autre dans ce monde enténébré et dans des ténèbres toujours plus épaisses que nous connaissions ces merveilles-là. Pouvoir dire que le Seigneur peut, ce soir, en cet instant, nous retirer de la scène, nous emmener avec lui. C'est vrai, cela. Nous sommes loin, ainsi, de réduire l'Évangile, comme nous l'avons dit ces jours derniers, ou l'autre fois, de réduire ainsi l'Évangile à la mince portion, quoique essentielle, du salut de l'âme. Quelqu'un qui n'a cela ou bien que cela, ou bien il n'a jamais eu l'occasion d'être instruit, ou bien il a été converti sans avoir eu une Bible entre les mains, ce qui est fort possible. Dieu peut tout. Et alors dans cela, ce cas se comprend. Dans ce cas, cela se comprend. Mais pour nous, si nous en restons là, si nous en restions là, ce serait une très grave infidélité, une très grave injure à l'amour de celui qui nous a tirés du péché et de la mort. Et c'est une chose moralement faite et spirituellement faite dont nous pouvons jouir présentement, chaque jour. On n'a pas besoin d'être un apôtre pour cela. L'épître n'est pas écrite à des apôtres, aux Corinthiens. Ils n'étaient pas dans un état si brillant que cela. Nous non plus.
Dans ce verset, mais dans le premier verset particulièrement, le fait que Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et il est question essentiellement, dans tout ce paragraphe, de la résurrection d'entre les morts. Bien qu'il y ait une allusion très claire à la résurrection des méchants. Mais c'est l'essentiel ici, c'est cette association entre Christ et les siens, ceux qui, s'ils sont endormis, se sont endormis en Christ, et s'ils sont encore sur la terre, sont dans des corps mortels, mais des corps qui ont été rachetés. Et quand il viendra, il les prendra tous, c'est ce qu'on verra à la fin du chapitre. Mais Christ et ceux qui lui appartiennent participent de la même manière au triomphe remporté sur la mort. Ils ressuscitent, ou ils seront transmués, d'entre les morts, laissant des morts, et laissant dans le sépulcre ceux qui seront réservés pour la résurrection de jugement, et c'est très solennel quand on pense à eux. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est bien vrai qu'il est ressuscité des morts. Il est bien vrai que nous ressusciterons, nous participons à la résurrection des morts d'une manière générale. Mais dans cette résurrection des morts, il y a une résurrection d'entre les morts, et puis la résurrection finale de ceux qui auront été laissés pour cela. Christ est sorti seul du tombeau, par sa propre puissance, par la gloire du Père, vivifié par l'Esprit, nous avons vu cela. Seul, mais comme prémisse, alors c'est une autre expression bien remarquable, prémisse de ceux qui sont endormis, sous-entendu endormis en Christ, endormis comme possédant Christ. Prémisse. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Et les premiers fruits de la moisson sont de même nature que la moisson elle-même. Il n'est donc pas seulement dit qu'il a été le premier des ressuscités, mais les prémices de ceux qui sont endormis. Ce sont des hommes qui étaient des descendants d'Adam, qui auront part à la première résurrection, à la résurrection de vie, parce que, moralement, par la foi, par la grâce de Dieu, mais par la foi, ils ont été tirés, comme cela vient d'être dit, hors de la mort. Moralement, ils ont échappé. Lui-même en a manifestement triomphé dans sa résurrection unique, mais préalable à celle de tous ceux qui lui appartiennent ou lui appartiendront. Prémisse de ceux qui sont endormis. Il y a un homme qui est sorti victorieux de la mort, et il y a des hommes qui sont placés par la grâce et la puissance de Dieu en vertu de cette œuvre accomplie en dehors de la mort, soustraits à la puissance de la mort. La mort est par l'homme, et c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Dans l'Adam, tous meurent, mais dans le Christ, tous seront rendus vivants.
Il y a
parallélisme de ce divin raisonnement de l'apôtre quant aux deux chefs de race. Le premier, nous l'avons à partir du verset 11 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. La mort est par l'homme. Par l'homme aussi est la résurrection des morts. Et ici, l'expression est aussi complète, embrasse tous ceux qui ont leur place par nature et par cheminement là dans la mort, leur vie dans la mort, si on ose dire. Mais c'est la résurrection des morts. Et Jésus, quand il exposait aux pharisiens orgueilleux et incrédules donner les premiers jalons de ce que nous avons ici, se présentant comme celui à qui tout a été donné jugement, parce qu'il est fils de l'homme, c'est la même expression, Christ, fils de l'homme. Il aura aussi, dans ces deux actes successifs d'un triomphe manifesté sur la mort, il aura aussi ce qui ici lui est conféré comme un pouvoir divin en résurrection de vie, ceux qui auront fait le bien, et en résurrection de jugement, ceux qui auront pratiqué le mal. Le sujet est vu dans toute son ampleur, et les expressions sont comme d'ordinaire, et nous pécherions en insistant, d'une précision divine. C'est la résurrection des morts. Et ceux qui sortiront ne seront pas tous vivifiés. C'est pourquoi il dit, tous seront rendus vivants. Ceux qui sont du Christ à sa venue, participant de la vie d'un Christ ressuscité, et déjà dans ce monde, jouissant de ce résultat de son œuvre, ils ont la vie éternelle. Ceux-là sortiront vivifiés, mais les autres. Dans l'abolition de la mort sera leur résurrection. Ceux-là ne seront pas vivifiés, ils seront rendus vivants. Contre leur gré, contre leurs souhaits intérieurs, la mort cessera d'être pour eux un refuge. Ils seront mis hors de la mort. Par l'abolition de la mort, par le fait que la mort et le Hadès seront jetés dans les temps de feu. Tout cela est sérieux, mais tout cela est d'une précision divine qui, une fois de plus, nous jette sur nos faces. En recevant par la simple foi ce que l'Esprit de Dieu enseigne dans cette magnifique parenthèse.
Dans la résurrection, il n'y a donc pas simplement un déploiement de puissance divine. Dieu ressuscitera les méchants, et ce sera là simplement un déploiement de puissance divine. Rien n'échappe à Dieu, à la main de Dieu, dans le monde qu'il a créé, et quelque changement qu'est apporté, la puissance de Satan, Dieu contrôle au-dessus de tout, il suit tout, et rien ne lui échappe, et il visite tout. Mais dans la résurrection des saints, il y a aussi un déploiement de puissance. Mais il y a là un problème moral qui a été résolu à l'égard des saints et dont il ne peut pas être question à l'égard de ceux qui n'ont pas la foi. Eux seront condamnés. Et si Dieu a pu ressusciter, peut nous ressusciter, ou le Seigneur peut nous enlever à lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement parce qu'il a la puissance de le faire, mais parce que, au fond de la question, la gloire de Dieu a été parfaitement revendiquée à l'égard de la mort elle-même et de ce qu'il a causé. Et a été revendiquée par le sacrifice de Christ, par le fait qu'il est entré dans la mort, alors que rien ne l'obligeait à y entrer. Il y est entré en parfaite obéissance pour réaliser la vie d'un homme parfait aux yeux de Dieu, quel que soit ce que celui-ci pouvait demander de lui, et dans un monde de péché. Maintenant, Dieu ayant été glorifié à propos du péché, à propos de la mort même, où l'homme obéissant est entré, il en est sorti, la mort ne pouvant pas le retenir, Satan n'ayant aucun droit à faire valoir devant Dieu contre Christ. Maintenant, la gloire de Dieu est satisfaite, et non seulement il a pu glorifier son Fils bien-aimé et le faire asseoir à sa droite, mais il ne peut pas refuser l'entrée dans son ciel à tous ceux, à aucun de ceux qui croient en son Fils et en son œuvre. C'est là un déploiement de grâce moralement supérieur au déploiement de la puissance pure, puisque tout est possible à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Et c'est cela qui a posé les questions les plus solennelles dont l'Écriture nous parle. Les choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu ne peut rien accepter qui soit contraire à sa nature. Et il est impossible qu'il ne condamne pas moralement, en jugement, judiciairement, ce qui est incompatible avec sa nature immuable et éternelle, parfaite, infinie. Dieu ne peut pas faire cela. Que les pécheurs ne comptent pas sur l'indulgence de Dieu à cet égard. Qu'un pécheur ne s'approche pas de Dieu comme Caïn le faisait dans l'esprit de Caïn. Dieu le rejettera comme il a rejeté Caïn. Que le pécheur s'approche de Dieu en passant par le chemin que Christ a ouvert, oui. Et si Dieu accomplit en lui, dans son âme, l'œuvre nécessaire, l'œuvre de foi sans laquelle on ne peut pas saisir les effets de l'œuvre de Christ. Mais n'oublions jamais que Dieu a des droits imprescriptibles. Les exigences de sa nature sont immuables et éternelles, et c'est ce qui met en évidence la valeur de l'œuvre de Christ, de son obéissance jusqu'à la mort et à la mort de la croix, pour qu'un Dieu qui ne peut pas changer, qui ne peut céder sur rien, reçoive des êtres tels que nous sommes. C'est dans le ciel que nous comprendrons cela beaucoup mieux et que nous serons conscients alors de la merveille que représente la grâce de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Elle est à la gloire de Dieu d'abord, parce que toutes les exigences de Dieu et le fait que Dieu ne peut fléchir en rien, tout cela a été parfaitement revendiqué, et bien plus que ne lui fait l'innocence, n'est-ce pas l'innocence de l'homme, bien plus. Cela a élevé à une hauteur unique toutes les exigences de la gloire de Dieu, les a mises en évidence. C'est pourquoi Dieu, maintenant, se glorifie en bénissant les pécheurs et en les recevant dans son ciel. Et la gloire est à lui, et à la gloire est à l'agneau éternellement. Méditons ces choses, elles en valent la peine. C'est le cœur de la vérité chrétienne.
Nous avons ici essentiellement, presque uniquement, en effet, les saints ressuscités, ceux qui appartiennent à Christ, les prémices Christ, puis ceux qui sont de Christ à sa venue. Voilà le propre rang de chacun. S'il s'agit de la résurrection de jugement, la résurrection de ceux qui restent appelés des morts une fois ressuscités, et non pas des vivants. Nous avons cela dans le chapitre 20 d'Apocalypse. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, devant le grand trône blanc. Elle n'est ici aperçue que par allusion, présentée que par allusion, sinon prétérition. Elle n'apparaît pas. On va tout de suite à la fin. À la fin, c'est-à-dire quand la mort sera abolie. Et quand l'état éternel est introduit. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Elle est personnifiée, elle est représentée comme jetée dans le Hadès, mais après le jugement, après tous les jugements, et c'est le dernier acte. Et ensuite, alors, il remettra le royaume, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, ce sera la fin. Mais préalablement, le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Elle ne pourra plus rien contre quiconque. Le sort de chacun sera fixé, mais s'il s'agit de notre part éternelle, elle est bien éternelle. Elle est bien à l'abri de tout ce qui pourrait être entrepris contre elle. Le dernier ennemi, la mort, a été non plus seulement rendue impuissante, et non plus seulement même engloutie en victoire, mais abolie. La seconde mort, comme on a dit, absorbe la première. La mort et le Hadès sont jetés dans les temps de feu. Alors ici, nous avons cette victoire sur la mort, et qui est celle de Christ, et à laquelle ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont de lui, participent à sa venue. La mort, Christ en a, si on la personnifie comme la parole le fait si souvent, en a triomphé à la croix. Et par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Jusque-là, elle avait régné. Et elle règne encore, nous voyons bien. Bien que, pour la foi, soit déjà accompli ce qui est résumé dans un mot que nous trouvons dans la première épître, dans la seconde épître à Timothée, au premier chapitre. Christ a annulé la mort et fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Deuxième épître à Timothée, premier chapitre, verset 10. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. La mort vaincue, la mort rendue impuissante, tous ceux qui sont de Christ, déjà par la foi, peuvent savourer cette victoire. Pour eux, la mort est annulée. Cela est si vrai que beaucoup d'entre eux ne connaîtront pas la mort. Ils seront transmués. Et quant à ceux qui s'endorment, ceux qui délogent, ils attendent la gloire, ils ne sont pas dans la gloire, leur âme est auprès du Seigneur, elle attend dans le repos, mais leurs corps seront ressuscités. La mort a été annulée. L'incrédule dit, mais la mort a été annulée, mais je vois partout encore des gens qui meurent. Bien, mais le croyant dit, je vois la mort annulée parce que Christ est sorti du tombeau. Et de même, je vois l'incorruptibilité dans le fait que son corps n'a pas connu la corruption. La mort est annulée. Elle a perdu son pouvoir. Elle ne l'exerce que dans la mesure où, selon la sagesse de Dieu et dans la patience de Dieu et de Christ à l'égard des pécheurs, les résultats de l'œuvre accomplie à la croix sont encore ajournés quant à leur manifestation extérieure. Mais la foi jouit déjà de ces choses. Ensuite, à la venue de Christ, qui nous est présenté ici, n'est-ce pas, ceux qui sont du Christ à sa venue, alors, comme nous le retrouverons à la fin du chapitre, la mort sera engloutie en victoire. Elle l'a été pour Christ, elle le sera pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui sont de Christ. La mort engloutie en victoire, selon l'expression du prophète, qui est rappelé dans ici au verset 54. Et puis, tout à la fin, elle sera abolie. Elle disparaîtra. Il n'en sera plus question. Qu'elle soit annulée maintenant pour nous est une affaire de foi. Et alors, non seulement elle est annulée, mais elle est mise, on peut dire, déjà sous les pieds du croyant. Elle est simplement de la part du Seigneur et de Dieu lui-même un instrument. Elle est assujettie à la puissance de Christ, et l'apôtre a inspiré à cette parole si grande, n'est-ce pas, qu'elle est même assujettie aux croyants. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, au verset 22. Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit monde, soit vie, soit mort. Toutes choses sont à vous, soit choses présentes, soit choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. Et nous savons comment, alors dans le domaine moral et dans l'application de la mort de Christ à l'existence du croyant sur la terre, la mort a un rôle qui est un rôle devant lequel la chair recule, mais que la grâce de Dieu fait tenir à la mort dans des corps mortels pour qu'il soit manifesté la vie de Christ. La mort opère en nous, mais la vie pour vous. C'est un autre sujet sans doute, mais tout se lit dans cette grande question de la mort de Christ et de la victoire remportée sur la mort.
La réalisation de ces choses paraît lointaine. Il n'en reste pas moins que c'est une chose solennelle que la mort, fût-elle la mort d'un croyant. Je me souviens d'une expression qui m'avait saisi, celui que nous aimons plusieurs d'ici entre nous, appelé notre père spirituel, qui a fourni une longue carrière. Il avait alors 40 ans, était bien plus jeune que lui, et j'avais été saisi par une expression qu'il employa au cours d'une conversation. Sans doute, ces sujets lui étaient familiers. Sa foi les avait reçus. Il les prêchait. Mais il me montra, dans la façon dont il traitait la question, quelque chose de cette solennité de la mort, salaire du péché. Une autre chère chrétienne à laquelle nous étions étroitement liés, quelques-uns ici, sur son lit de mort, disait: on fait de la mort une montagne. La mort, c'est bien simple. Salaire du péché. C'était une fin triomphante, mais avec le sentiment de toute la solennité de la mort du corps comme sanction du péché. Or, voici que la vérité de Dieu, les affirmations divines, selon ce que notre foi reçoit, ce en quoi nous avons à être établis, comme quelqu'un qui tient en main ce qu'il possède, voici que Dieu nous appelle à considérer ce qui va être appelé par l'Esprit lui-même l'adoption, la délivrance de notre corps. Notre corps, le même apôtre exprime sa réalité humiliante. C'est le corps de notre abaissement. Le corps de notre abaissement, c'est un contraste avec le corps de sa gloire, à la conformité duquel il va nous rendre lui-même, agissant selon le pouvoir qu'il a, de s'assujettir même toutes choses. Mais c'est le corps de notre abaissement. Or, parce que la foi donnée de Dieu nous amène à recevoir simplement, mais comme une certitude divine, ce fait que ceux qui sont du Christ à sa venue seront vivifiés, alors la mort perd dans une mesure divine ce qui est son caractère de reine des épouvantements. On est allé jusqu'à dire, et l'expression vaut peut-être d'être rappelée, qu'elle est comme au service du croyant pour le faire passer d'un domaine où la mort met son sceau surtout dans ce domaine de la vie déjà goûtée dans un repos parfait en la présence de celui qui, vainqueur de la mort, nous a liés à lui dans sa vie de résurrection. Mais ne traitons pas ces choses à la légère. Et si nous y étions tentés, le chapitre 12 de ce livre solennel de l'Ecclésiaste est là pour dire aux plus jeunes comme aux plus vieux, le moment approche où tout finit de l'être humain, que ce soit un corps d'abaissement ou un corps de révolte, quand la vie en est retirée. Je me souviens d'une expression qui m'avait frappé parce qu'elle était saisissante et affligeante. Il s'agissait de l'un des plus grands esprits du siècle, au début de ce siècle-ci. C'était un incrédule, mais un incrédule conscient, qui niait la vérité de Dieu au nom de sa raison. Et commentant son départ dans un article nécrologique, on parlait de lui en disant « Il s'est avancé vers la mort en la regardant en face. » Quelle chose humiliante que l'esprit de l'homme puisse s'arrêter à cette ultime offense, cette provocation, quand la mort est le salaire d'un péché, qui, pour pouvoir être aboli, a entraîné la mort, les souffrances et la mort de son propre fils. Mais attendre l'adoption, encourager déjà à voir de l'autre côté de la mort ce qui en sera de notre être, le corruptible descendant dans l'incorruptibilité, dans ce qui est corruptible, pardon, mais appelé à l'incorruptibilité. Et l'âme, déjà jouissant de ses privilèges bénis d'être, avec, non pas auprès, mais avec le Seigneur, en attendant d'être auprès de lui quand il aura consommé le salut dans la gloire.
Se servir et se sert de la mort pour l'instruction même des saints, se servir de la crainte de la mort. Et nous sommes si facilement endurcis que de tels moyens sont nécessaires. Mais la connaissance des vérités relatives à la résurrection dont nous nous occupons n'est-elle même bienfaisante que si la parole et l'Esprit Saint en occupent nos âmes, nos cœurs, nous donnent d'avoir avec le Seigneur des relations meilleures, ce qui est la clé de toute vie chrétienne, du commencement à la fin. Et nous ne pensons pas qu'il n'y aura pas, quand tout sera manifesté, bien des saints pour lesquels la mort aura été un triomphe et qui pourtant auront eu très peu de connaissances générales. Mais c'était Christ qu'ils avaient en eux. Nous pouvons nous demander, nous pouvons considérer le tableau offert par la mort d'Étienne. Ça n'avait pas grand-chose à ce moment-là. Mais Christ remplissait son cœur, et il y a là une manifestation de puissance très rare. La paix, le calme, la supériorité à tout, l'oubli de la méchanceté des hommes et la demande au Seigneur qu'il se souvienne de cela en pardon. Il en faut de la puissance pour cela. Il y faut Christ. Christ y suffit. Ne doutons pas non plus que dans l'histoire de l'Église, au temps des persécutions, soit au début, soit au cours des siècles suivants, ne doutons pas que bien des personnes, des jeunes, des hommes, des femmes, auront affronté la mort en vainqueur, auront refusé l'issue qui pouvait être offerte pour sauver leur vie. Et ils ne l'auront pas fait par bravade, mais dans le calme souverain et la puissance supérieure que donne le Seigneur aussi bien dans ses heures extrêmes, ses moments extrêmes. C'est instructif de trouver cela. C'est une des choses qui sont instructives, bien présentes dans l'histoire, une histoire même écrite par les hommes, et même pas nécessairement par des hommes religieux. Et la grande affaire, pour ce moment suprême de la vie, comme pour les autres, ou pour toutes les autres épreuves de la vie, la grande affaire, c'est que l'on est le Seigneur près de soi, en soi. Alors c'est la réalisation de ce qui est écrit, on est plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. La vie des saints, notre vie, devrait être, hélas, devrait être aussi un triomphe. Il n'y a rien dans le christianisme qui ne soit susceptible d'élever le croyant tout entier au-dessus de tout ce qui peut l'abattre. Seulement, il faut à tout prix le Seigneur. Et c'est là que la piété intervient. Nous avons tous connu, entendu parler de ce frère, l'homme de Dieu. Nous avons Paul. Vous voyez Paul ? Il a frôlé la mort quand même, quoi, de près. Ben, continuellement, je meurs chaque jour, il dit. Est-ce que c'est un homme qui se plaint? Et c'est un homme qui exprime dans ses paroles de l'effroi, de la terreur? Non. Il ne donnerait pas sa place à un autre. Il ne l'aurait donné à personne. C'est une place privilégiée que la grâce de Dieu a faite à cet homme, le premier des pécheurs. Nous voyons les choses à l'envers de cela, n'est-ce pas? Nous les voyons mal, parce que nous ne les voyons pas avec le Seigneur. Nous avions un de nos vénérés serviteurs auxquels nous avons très souvent allusion, sans nommer, à son lit de mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a cru partir à un moment donné. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Vraiment, c'est un homme dont nous savons très bien, et c'est pourquoi nous honorons, et nous en avons le devoir, sa mémoire, dans le cœur duquel Christ n'avait pas la deuxième, la troisième, la dernière place.
Vous pouvez écrire, Christ a été ma vie. Et puis nous pouvons aussi, c'est édifiant, penser aux dernières paroles d'un frère qui vivait à peu près du temps du cher JND. J'ai nommé Jean-Louis Favré. Il avait toujours établi l'Évangile sur le pied de la justice. Et quand il prit congé des frères qui l'entouraient, il eut, en accord avec l'enseignement toute sa vie, mais comme l'affirmation d'une foi qu'il rendait vainqueur, au revoir, sur le pied de la justice. De telles fins nous font envie. Si nous devons passer par là.
Plus d'une fois, des martyrs ont manifesté que le Seigneur était avec eux d'une si puissante manière que cela a touché à salut leurs persécuteurs.
Et je le répète, la jeunesse s'y arrête peu. Elle voit les choses lointaines, alors que, qu'est-ce que notre vie ? Une vapeur paraissant et disparaissant. Ah, que dès vos jeunes années, vous puissiez exprimer maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, et ma part, c'est la sienne.
Du Christ, ceux qui sont du Christ. En parlant des morts dans le Seigneur, des morts et qui, durant cette vie présente, terrestre, ont reçu par la foi le témoignage de Dieu concernant Christ, celui qui a été déterminé Fils de Dieu en puissance par la résurrection des morts, et qui peuvent être dits du Christ. On est du Christ ou on est de ce monde. Alors ceux qui sont du Christ à sa venue, voilà le rang qui est assigné à ceux qui auront passé par la mort mais appartenant à Christ. C'est et comme chacun le sait, je pense, le premier acte de ce qui est appelé ici la venue de Christ, que de ressusciter et de transmuer ceux qui seront vivants, ceux qui sont endormis, comme des croyants. Mais en réalité, cette première résurrection comprend plusieurs phases, plusieurs actes elles-mêmes. Il y a la scène qui nous est décrite dans des traits bien connus et si remarquable dans le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens et qui constitue la première phase de la première résurrection. Il y aura là, à n'en pas douter, à la fois les saints de l'Ancien Testament, car ils avaient la vie, eux aussi, la vie par la foi, bien que n'ayant pas les lumières que nous avons et ne pouvant pas parler de Christ et de l'œuvre de Christ comme nous le pouvons, mais ils seront eux-mêmes ressuscités. il y aura l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants endormis pendant l'époque chrétienne et de ceux qui seront là lorsque le Seigneur viendra. Il y aura ensuite ceux qui seront ressuscités dans le cours ou au terme, cela ne nous est pas précisé, mais le fait nous est bien présenté, des temps prophétiques précédant l'apparition en gloire du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous avons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 4. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Ils étaient assis dessus, ce sont tous ceux qui sont associés à Christ, ils lui seront associés dans sa gloire, et il s'agit, chacun à sa place, les saints de l'Ancien Testament, l'Église avec sa place particulière, et puis ces classes particulières aussi, ces classes spéciales qui nous sont énumérées ensuite. Le « ils étaient assis » du début du verset, comprend tous les ressuscités transmués associés à Christ avant l'établissement de son règne, mais sur le point, je le répète, de l'établissement, cet établissement. Et alors, deux classes particulières, les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Ce sont des saints de la période apocalyptique, de la première partie de cette période. Très certainement, ce sont les âmes dont il est question au chapitre 6 de l'Apocalypse, ces âmes que l'on voit sous l'autel et qui ont été les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont des martyrs de cette époque-là, du temps de l'épreuve, préalable à la grande époque de tribulation qui viendra ensuite, correspondant à la dernière demi-semaine. Et alors, c'est précisément en rapport avec les événements de cette dernière demi-semaine, la grande tribulation, que se rapporte ce que nous avons ensuite dans ce verset 4 du chapitre 20, ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, soit des juifs fidèles qui auront résisté à l'Antichrist jusqu'à la mort. Il en est question à la fin du chapitre 13 de l'Apocalypse. On les voit au chapitre 11 déjà. Et puis, il y a parmi ceux-là des gens des nations, des juifs, des gens des nations, c'est ce qu'on trouve dans les chapitres 14 et 15 de l'Apocalypse. Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ce sont les derniers martyrs qui meurent dorénavant dans le Seigneur. Et puis on les voit glorifiés, n'est-ce pas, symbolisés par ceux qui se tiennent debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu, etc. Ainsi, il y aura plusieurs classes et plusieurs phases dans cette première résurrection qui est la résurrection des saints, de ceux qui seront associer encore une fois à Christ dans sa gloire, qui seront manifestés avec lui et qui apparaîtront avec lui. On peut les voir à la fois dans le premier chapitre, la deuxième épître aux Thessaloniciens, quand il vient pour être glorifié dans les saints, admiré dans ceux qui auront cru, et également même dans le chapitre 19 d'Apocalypse. Et ensuite, alors, il y aura cette période qui correspond au jour du Seigneur, c'est-à-dire l'établissement du règne par le jugement de ses ennemis, des ennemis vivants du roi, puis le règne lui-même, règne de justice, où il ne sera pas permis à quelque ennemi que ce soit de s'élever contre lui. C'est le Fils de l'homme qui aura le jugement entre les mains. Il exercera ce jugement, il exercera pour établir le règne, et puis tout au long de son règne, toutes choses seront effectivement mises sous ses pieds. C'est ce que nous présente le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Et à l'issue de ce règne, il y aura le jugement final. Il y aura cette résurrection de jugement, le grand trône blanc. Et ensuite, il remettra le royaume à Dieu le Père. Quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, et ce sera la fin. Et la mort, encore une fois, sera là abolie. Il y aura encore une mention de la mort, pourtant, après cela, ou du moins la parole nous donne une autre mention de la mort, mais un passage de toute beauté si précieux, caractérisant, pour caractériser l'état éternel et l'état de béatitude de ceux qui auront part à cette paix, à cette gloire et à ce bonheur des nouveaux cieux et de nouvelles terres. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Et toute crainte avec elle. Ainsi, il y a, avant que le Seigneur prenne le royaume, la résurrection des saints. Et il y aura, avant qu'il ne remette le royaume à son Père et que s'ouvre l'état éternel, il y aura le jugement des méchants. Voilà ce que nous évoquent les quelques versets que nous avons ici. Mais l'Esprit de Dieu insiste sur ce fait qu'il lui appartiendra à celui qui s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix, d'abolir toute principauté, toute autorité, toute puissance. L'homme, Christ Jésus, Jésus le méprisé des hommes, c'est celui-là qui abolira tout ce qui est hostile à Dieu, tous les ennemis, et le dernier ennemi, la mort. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il s'est abaissé jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a haut élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Nous le voyons alors, et c'est la part présente des croyants, sans attendre à la manifestation effective, c'est la part de la foi maintenant, que de contempler dans le ciel celui qui est déjà couronné de gloire et d'honneur, celui à qui elles sont déjà sujetties toutes choses. Elles ne sont pas mises effectivement, visiblement, concrètement sous ses pieds, mais en puissance, il en est ainsi. Et la foi le saisit. Cela répond à ce qui nous est présenté dans le passage qui est rappelé ici du psaume 8. Psaume 8, verset 6, n'est-ce pas ? Il a assujetti toute chose sous ses pieds. C'est déjà présent pour la foi, pour Dieu. C'est déjà réalisé. Christ a reçu ce pouvoir et cette dignité, cette gloire, ça lui appartient. Et puis, le jour viendra où, effectivement, il s'assujettira à toutes choses. Il les mettra sous ses pieds. Et ce sera le règne, et c'est le verset du psaume 110. Il est bon que, dans la mesure de notre faible intelligence spirituelle, même éclairée par le Saint-Esprit, nous prenions conscience de ces grands faits et de l'ordre dans lesquels la parole nous les présente. Mais aussi, pour nous dire que si toutes choses lui sont assujetties, lui-même a tout fait et fera tout pour la gloire de son Père, sans doute, puisque c'est à Dieu le Père qu'il remet le royaume, mais pour la gloire et la pleine satisfaction de tous les droits et le plein déploiement de toutes ces perfections de Dieu lui-même. Alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu. Dieu dans sa plénitude, la plénitude de la déité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu sera tout en tous. Nous voilà en présence de l'état éternel. Pardon.
Principauté de toute autorité, de toute puissance, elle fait allusion au fait que le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
De la chose, c'est la destruction de tous les ennemis, aussi bien parmi les hommes, toute principauté, autorité humaine dressée contre Dieu aura eu son jugement, et les puissances spirituelles de méchanceté qui avaient été dans les cieux célestes et précipités ensuite sur la terre, Satan et ses anges seront effectivement jugés de la sorte, abolis, et enfin, la mort elle-même, dernier ennemi. Il y a là une gradation.
Ceux qui sont du Christ, la sainte du. En effet, ce sont les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les autres sont d'Adam, mais pas de la descendance d'Adam. La vie divine, la vie éternelle, est la même pour toutes les classes de croyants. Il n'y a pas deux sortes de vie éternelle, pas deux sortes de mort, ni au fond, ni deux sortes de résurrection. Et qu'elle ne soit pas, même si elle ne se produise pas au même moment.
Dans le cas qui vient d'être rappelé, la fin solennelle, la destruction de cette trilogie du mal, la bête,
le faux prophète et le diable. C'est remarquable, c'est comme une dernière vision des cieux et de la terre de maintenant. Immédiatement après, il est parlé du grand trône blanc, verset 11 de ce chapitre 20. Celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel. Je ne fus pas trouvé de place pour eux, mais antérieurement. Celui qui a troublé les cieux des anges. Trouver l'ordre divin dans cette sphère mystérieuse des seconds cieux. Celui qui a introduit sur la terre le principe de désobéissance et a troublé l'ordre de Dieu sur la terre en amenant la créature privilégiée à pécher selon la désobéissance. Celui-là est ici jeté le diable qui les avait égarés, le feu descend du ciel. Tous ces rebelles des dernières heures de la création actuelle et de ceux qui l'habitent, les dernières heures vont être terminées. Le feu descend du ciel, ils sont de la part de Dieu et les dévore. Et le diable, qui les avait égarés, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, qui seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ici, il n'en est pas question. Le sujet, c'est la mort. Lui, il est celui qui a le pouvoir de la mort. Et il aura sa place dans cette seconde mort, tourment éternel, auquel il aura entraîné tant d'âmes que Dieu eût voulu sauver.
Alors, ces tourments éternels étaient destinés au diable et à ses anges, n'oublions pas. Le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, et il y a entraîné les hommes. Mais il aura perdu toute autorité sur eux dans les représentations aussi fausses les unes que les autres, avec toute l'imagination débridée des hommes de tant de manières, toutes les représentations qu'on a pu faire de l'enfer. Et on représente toujours Satan comme le prince de l'enfer. Mais il n'y a rien de cela dans la parole. Il y sera, et il y sera jeté. Les tourments sont pour lui, et je le répète, il aura été dépouillé de toute espèce d'autorité. Et c'est solennel. Il faut bien penser à la manière dont la parole nous parle de ces choses. Quant à la bête et aux faux prophètes, ils auront été précipités dans les temps de feu et de soufre avant les 1000 ans. N'est-ce pas ? Ce sera leur jugement immédiat après leur défaite, fin du chapitre 19 de l'Apocalypse. Le diable aura été enchaîné, hors d'état de nuire, sur les hommes pendant le règne, puis délié à la fin du règne, et il entraînera encore les nations contre les saints et contre Christ, et alors viendra le jugement final.
Le diable ne sera pas le premier à être jeté dans les temps de feu et de soufre. Il ne sera que le troisième. Avant lui, il y a la bête, c'est-à-dire le chef de l'Empire romain, et le faux prophète, c'est-à-dire l'Antichrist. Ils sont jetés vivants. Ils ne passent pas par la mort, par la première mort, ceux-là. Ils sont jetés tout de suite dans la seconde. On peut être aussi surpris par des expressions telles que celles de notre lecture, que le Fils soit assujetti. Ce mot paraît un peu surprenant à première lecture, cela nous est arrivé à tous, probablement, d'avoir ce sentiment Nous ne perdons jamais de vue que le Fils est l'égal du Père, depuis toujours et pour toujours, en tout temps, en toutes circonstances. Mais dans la déité ou la Trinité, c'est le Fils qui est seul qui est incarné. Ça, dans les conseils divins, cela devait être ainsi. C'est lui qui a connu l'humiliation, la souffrance, qui est devenu homme, mais dans toute sa vie, et l'évangile de Jean notamment, met cela en évidence d'une manière remarquable, très belle, tout en se tenant dans une position de soumission, de dépendance vis-à-vis de son Père, en même temps, dans ce même évangile, on l'entend affirmer son égalité avec son Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est le mystère de sa personne que nul ne peut sonder, nul ne sondera jamais. Donc, à la fois, le Seigneur sur la terre était Dieu le Fils, et en même temps, un homme réellement dépendant, en cela, il est le modèle pour nous. S'il n'avait pas été un vrai homme en toutes choses et dépendant en toutes choses, il ne serait pas le modèle qu'il est pour tout le croyant. Les croyants n'ont pas d'autre modèle que lui. La mesure de la vie chrétienne, c'est ce qui s'est manifesté en lui. Ils n'ont pas à tergiverser sur ce point. Mais cela alors nous permet de comprendre ce passage où il est dit que le Fils a été assujetti. On peut dire que quand il était homme, il était assujetti à la dépendance. Et en même temps, il avait la plénitude de toutes l'excellence de la déité, des personnes divines. C'est le mystère de sa personne, et le Père et le Fils n'ont pas la même place, ni dans la déité, ni dans l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur prendra, il sera donné au Seigneur de mettre de l'ordre sur la terre, et il le fera pendant les 1000 ans. Dès qu'il viendra, il jugera, en arrivant, il juge. Il est accompagné par des saints célestes, mais c'est lui seul qui juge. Nous ne pouvons pas entrer dans tout cela. L'Apocalypse est un livre à lire, il est difficile, c'est-à-dire qu'il faut plus de dépendance et de connaissance, de maturité d'âme et de connaissance de l'Écriture que pour un autre. Mais en passant, nous disons aussi que nous avons des docteurs qui nous ont éclairés là-dessus et dont, en général, l'enseignement est remarquablement profond et sûr. C'est à la portée de tous. Nous saisissons l'occasion pour rappeler à tous, à chacun, que si cela est entre nos mains, il nous sera demandé compte au tribunal de Christ aussi de ce que nous avons fait. Car on ne se moque pas de Dieu, non pas davantage quant à la façon dont on emploie ses grâces que de la façon dont on se moque de lui ou on est indifférent. Pensons à cela. Le Seigneur viendra donc et il établira son règne. On peut dire que cet assujettissement durera tout le règne. Voilà. Et à la suite, nous avons une série, comme on les a rappelés, une série d'événements les plus solennels qui soient pour l'histoire du monde. Alors nous touchons à la fin du monde, on lance là dans le sens profond du mot. Et à la fin de tout, dans l'état éternel, le Fils remettra le royaume au Père. Il a reçu le royaume, il a la part du Père qui lui a remis, il a assujetti toutes choses sur les pieds, et il remettra le royaume au Père. Et alors Dieu sera tout en tous. Et Christ, comme on l'a dit, nous le rappelons, sa médiation entre Dieu et les hommes ne sera plus officielle, elle deviendra personnelle. Il sera pour toujours le premier-né entre plusieurs frères, pour toujours, pour l'éternité. Et le mystère de sa personne demeurera insondable, mais aura les effets merveilleux pour les saints, pour tous les rachetés qui lui seront faits semblables, ne l'oublions pas, sauf qu'il gardera, lui, sa déité, et nous aurons nos délices, nous préparons nos délices éternels à jouir de ce qu'il est, à la fois homme et Dieu pour l'éternité, homme glorifié alors, et les saints étant à même de comprendre ce qu'il est, nous en jouirons, et notre adoration sera enfin ce qu'il désire qu'elle soit.
Ici sont bien remarquables à cet égard. Il est dit de Christ que toutes choses sont assujetties sous ses pieds, que Dieu les lui a assujetties. Il s'agit de ces autorités qui ont prévariqué, qui se sont dressées contre Dieu même. Et voici que elles sont contraintes, tous les ennemis sont contraints d'obéir à Christ. C'est l'assujettissement de volonté qui était rebelle. Lorsqu'il s'agit du Fils, quand le temps du royaume étant passé, Dieu ayant déployé sa gloire et Christ en étant, ayant porté cette gloire comme roi et sacrificateur pendant tout le règne, alors le Fils remet le royaume à son Père. Nous l'avons là dans l'exercice de son autorité et dans l'éclat, on peut dire, de sa dignité personnelle. Il remet le royaume à son Père. Et il nous est dit, en même temps, que le Fils aussi, lui-même, sera assujetti. Ce n'est pas l'assujettissement des autorités que Christ aura dû vaincre, des ennemis qui seront mis sous ses pieds comme des vaincus. C'est l'assujettissement volontaire. Il a dans ce geste tel qu'il nous est présenté ici de majesté divine, eh bien, les caractères mêmes qui ont été les siens ici-bas. C'est-à-dire l'obéissance parfaite, mais une obéissance volontaire. Les caractères d'un serviteur, d'un fils, mais qui accomplit la volonté d'un maître qui est son Père. Et en même temps, cette sainte volonté et cette gloire propre et cette divinité qui est la sienne et qui faisait qu'ici-bas, et il pouvait dire, qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père nous sommes un.
C'est une merveilleuse grâce que de savoir que nous serons semblables au Seigneur pendant l'état éternel, qu'il sera le premier-né entre plusieurs frères, et qu'en même temps, il sera Dieu le Fils, et Dieu sera tout en tous, il est bon d'insister là-dessus, non pas le Père, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sera tout en tous. Et s'il y a une majesté admirable dans ce qui nous est présenté là, ces passages nous rappellent aussi que lorsqu'il est venu sur la terre, c'est la manière dont il est venu s'est réalisée avec une majesté non moins belle. Non moins belle. C'est lui qui a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Cela est à la hauteur de la scène éternelle qui nous avons, devant laquelle nous avons été placés. Où qu'il soit, il est grand. C'est pas du fait que les temps de feu recevra aussi tous les méchants. On le sait, mais c'est dans l'Apocalypse.
Les expressions employées ici par le Saint-Esprit nous jettent sur nos faces. Le Fils aussi lui-même, comme homme, nous le comprenons, mais le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toute chose. Dieu est la source de tout pouvoir, de toute puissance. Son Saint-Fils, qui l'a pleinement glorifié dans sa vie et dans sa mort d'homme, celui que Dieu aussi lui-même a glorifié, selon l'expression de Jean 13, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, il allait à la mort, et Dieu est glorifié en lui. Aussi Dieu incontinent le glorifiera. Il y a là des affirmations qui nous mettent, je dirais, comme à la porte du mystère. Mais nous sommes là, nous prosternant. Eh bien, celui à qui il sera assujetti, c'est celui qui lui a assujetti toute chose, de qui il a reçu le royaume, et à la gloire de qui il aura exercé la puissance dans l'esprit même de Dieu tout le long de ce royaume où toutes choses seront gouvernées par la pensée divine. Et voilà que, ayant clos son divin ministère, comme homme, il remet le royaume à Dieu le Père, étant assujetti à celui qui lui a assujetti toute chose. Et c'est l'état éternel, caractérisé, nous le savons, par l'expression qui est ici employée, afin que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit tout en tous.
Encore un mot. Le Seigneur actuellement n'est pas sur son trône, il est sur le trône du Père. Apocalypse 3 nous le prouve. Il aura alors son trône quand il exercera le pouvoir. Mais nous le contemplons à la droite de Dieu sur le trône du Père par la foi. Nous resterons éternellement des créatures. Nous ne serons pas Dieu, bien qu'ayant participant à la nature divine. Nous resterons éternellement des créatures. Le Seigneur sera éternellement premier-né entre plusieurs frères. C'est vraiment admirable quand nous nous arrêtons devant cela.
Est-ce l'amour en conscient, en quelque mesure, de l'infinie distance qui maintenant nous sépare de lui et qui sera maintenu à jamais quand il dit au Père, la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée. Il s'agit de lui comme fils de Dieu, mais fils de l'homme glorifié. Mais quand il s'agit de sa gloire éternelle, le fils unique, qui est dans le sein du Père, dans le même chapitre 17 de Jean, il est exprimé ceci. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Toujours maintenu, la gloire éternelle de sa personne dans le même moment où il ouvre son cœur à Dieu le Père, 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 c'est ce qui l'emploie tout le long de ce chapitre, de cette merveilleuse prière, pour que soit maintenue dans nos cœurs la sainte révérence qui doit déjà nous faire prosterner devant lui.